Des mots pour le dire, une émission présentée par Edonès Banti avec Michel Théron.
Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur le réseau FM+, si vous nous rejoignez pour notre rendez-vous hebdomadaire sur le 91 MHz, si vous êtes sur l'agglomération Montpellier-Rennes ou bien sur le 103.1 sur Radio Alliance Plus, agglomération nîmoise. Des mots pour le dire, et pour le dire, je suis en compagnie de Michel Théron. Bonjour Michel.
Bonjour Edouane, bonjour à tous.
On a fait une petite parenthèse pendant ces vacances, puisqu'on a fait une rediffusion la semaine dernière, mais je suis sûr que pour ceux qui nous ont écoutés, c'est comme si c'était une première fois. Et nous allons continuer donc les propos que nous avons déjà commencés la semaine dernière lorsque nous avons abordé le chapitre Amour et connaissance. Donc des mots pour le dire, méandre de l'amour, Eros et Agapé, c'est le livre qui nous sert de barque pour traverser ces méandres et nous découvrir peut-être nous-mêmes, vous qui nous écoutez. Et avant de donner la parole à Michel, je commencerai, comme je le fais maintenant souvent, avec quelques citations, et cette fois-ci ce sont des proverbes. Je commencerai par un proverbe italien qui dit « Les fautes sont grandes quand l'amour est petit ». Et puis un proverbe espagnol qui dit « L'amour sans une certaine folie ne vaut pas une sardine ». Et puis un proverbe sanscrit qui dit « La bouderie en amour est comme le sel, il n'en faut pas trop ». Et un dernier qui est plutôt une sorte de pique aux hommes, c'est un proverbe italien « L'amour donne l'esprit aux femmes et le retire aux hommes ». Voilà, pour démarrer, Michel, notre émission et cette première partie donc qui nous permet de terminer le chapitre que nous avons ouvert la semaine dernière.
Amour et connaissance. Eh bien, moi, je vais proposer une nouvelle citation. La citation de Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point. Hein. Vous voyez, alors le mot raison est répété, c'est ce qu'on appelle une antanaclase. Le sens change, justement, à chaque occurrence du mot. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Nous étudions les rapports entre l'amour et la connaissance. Mais il est certain que la connaissance ne peut pas être formalisée a priori et facilement, perçue dans les relations que nous nouons avec les autres. Vous savez que percevoir le sens de chaque contexte affectif dans toutes ces relations que nous nouons avec les autres demande beaucoup de finesse, beaucoup d'expérience et beaucoup de maturité. Hein. Et alors, je vais faire une petite parenthèse sur le terrain qui vous est familier, Edouane, le terrain de la théologie et de la culture religieuse. Je pense à l'existence d'un logion gnostique, ou au moins gnosticisant, dans un manuscrit fort ancien de l'évangile de Luc, le Codex de Bèze. Voici ce qu'on lit dans ce manuscrit. Il s'agit de Luc chapitre 6, verset 4. Le même jour, voyant un homme qui travaillait le jour du Shabbat, Jésus lui dit « Homme, si tu sais ce que tu fais, tu es heureux. Si tu ne le sais pas, tu es maudit et transgresseur de la loi. » Je parle bien de gnose, puisqu'il y a « si tu sais »,« eimen oidas hein, »,« si tu sais ce que tu fais ». Et la gnose, gnosis, c'est la connaissance. Hein. Si tu le sais, c'est bien, sinon tu es kataratos et parabates tu nomu, c'est-à-dire tu es maudit et transgresseur de la loi. Alors il faut se débrouiller avec ça, c'est totalement énigmatique. Cette parole a hanté Carl Gustav Jung pendant toute sa vie. Elle ne figure pas dans le texte reçu, et on comprend bien pourquoi, car il est très difficile de savoir quelle conduite tenir dans telle ou telle circonstance. Et on préfère sans doute, dans toutes les circonstances de sa vie, être dirigé qu'éclairé. Hein. Et c'est ce que l'institution a dû penser, puisqu'elle était chargée de la pastorale, c'est-à-dire de la gestion du troupeau des fidèles, que l'on appelle les ouailles. Ouailles vient du latin ouicula, petite brebis. Alors vous voyez, Redouane, il y a parfois des contradictions entre les nécessités de la pastorale et puis la rigueur philologique, hein, ce que dit le texte. C'est pour ça qu'on a supprimé ce fameux logion, qui, je le répète, renvoie à une version très ancienne du texte. Il est homologue aux vieilles latines, par exemple, et tout cela, c'est une tradition que l'on appelle la tradition occidentale de transmission du texte. Cette tradition s'oppose aux grands manuscrits qui appartiennent à la tradition alexandrine, les manuscrits du IVe siècle, comme le Vaticanus, le Sinaiticus, etc. Et ce sont ces manuscrits-là qui se sont imposés, en sorte que des versions antérieures ont été supprimées. Vous voyez, Redouane, en tant que pasteur, vous devez vous occuper de pastoral. Et est-ce qu'il vous arrive, ça c'est une question perfide que je peux vous poser, de gazer le texte, c'est-à-dire mettre un voile de gaz sur le texte au bénéfice justement d'une pastorale qui serait, comment dire, plus encourageante pour les fidèles. Je ne sais pas. Hein, bon.
Sûrement, parce que il faut avoir aussi cette liberté vis-à-vis du texte. Le texte n'est pas la vérité. Pur et dur, le texte est le témoignage d'hommes et de femmes de foi qui nous ont précédés et qui rapportent à travers ce qu'ils sont et ce qu'ils perçoivent de cette vérité. Donc ce n'est pas la vérité entière. Et puis aussi, ce sont ces paroles qui sont ancrées, enracinées dans une réalité historique et humaine. Et du coup, c'est vrai qu'il y a des passages que j'occulte, entendons-nous, que j'aborde de manière pastorale. C'est-à-dire, peut-être des paroles qui sont dures, incisives, et les retraduire, les retranscrire dans le langage quotidien.
Tout à fait, c'est humain. Et c'est tout à fait compréhensible. Alors, ce logion du Codex de Bèze qui nous dit que si on sait ce que l'on fait, on fait bien. Si on ne le sait pas, on ne fait pas du bien, relève de ce que j'appellerais l'antinomisme. Nous avons déjà parlé de l'antinomisme dans une émission précédente, hein. L'antinomisme, c'est une position qui s'oppose à la loi, hein, à l'observance, littérale, en quelque sorte, des commandements ou des préceptes de la loi. Eh bien, cela se fait au nom d'une connaissance plus approfondie, d'une gnosis, d'une gnose, d'une connaissance plus approfondie des circonstances et des conditions. Et cette dernière, cette connaissance approfondie, qui est indispensable, est très difficile à pratiquer dans chaque situation concrète. Rien n'est défini ou organisé a priori dans nos vies, hein, et aucune modélisation des conduites ne peut se faire dans l'absolu. Pourquoi ? Tout simplement parce que les repères changent d'un instant à l'autre, hein, et donc aussi changent la conduite à tenir. Voyez ce que dit Lao Tzu au début du Tao Te Ching. Voyez, Redouane, j'aime bien faire des comparaisons entre les textes appartenant à des cultures très différentes, comme le texte évangélique, par exemple, qui nous concerne, nous, en tant qu'occidentaux, et puis certains textes extrême-orientaux. Le texte de Lao Tzu inaugure ce qu'on appelle le taoïsme. Le Tao Te Ching, c'est le livre de la voie et de la vertu. Alors, que nous dit-il, Lao Tzu ? La voie, le Tao, la voie qui est vraiment voie, n'est pas une voie constante. Les termes qui sont vraiment termes ne sont pas des termes constants, vous voyez. Donc tout change, et donc si cette voix, si ce Tao change toujours, tout ne peut être chez nous affaire que de perception contextuelle. Ou comme le disait le philosophe Vladimir Yankelevitch, question de manière et d'occasion. Et j'ai déjà signalé une autre parole de Pascal, la vraie morale se moque de la morale, vous voyez. Je pense aussi à la parole d'Augustin que l'on connaît, hein, à qui un disciple lui demandait ce qu'il devait faire dans la vie. Eh bien Augustin répondit, aime et fais ce que tu veux, diligé et facodwis, c'est-à-dire que l'amour est essentiel. C'est très beau cette parole, mais elle est très difficile à mettre en pratique, parce que on sait jamais si on s'engage sur la bonne ou la mauvaise voie. Alors je suis sûr que, par métaphore, le logiciel de l'amour vrai existe, mais il doit s'apprendre, hein, et il s'apprend avec beaucoup de patience, vous voyez, ce n'est pas simple. Donc, comment il faut aimer, comment un amour éclairé par la connaissance peut en nous se manifester, nous pouvons le souhaiter, hein, souhaiter le savoir, mais il ne faut pas être triomphaliste en proclamant justement que cette voie est facile. Je vais prendre un exemple, Redouane. Supposons que quelqu'un ait de la peine. Alors, nous pouvons nous imaginer que nous devons toujours aller le consoler. Mais est-ce que c'est une bonne attitude tout le temps? Vous voyez, il peut en être des consolations, ce que La Fontaine dit des condoléances dans les obsèques de la lionne. Vous voyez, la femme du lion mourut, aussitôt chacun accourut pour s'acquitter envers le prince de certains compliments de consolation qui sont surcroît d'affliction. Vous voyez, donc les compliments de consolation au XVIIe siècle, c'est les condoléances. Lorsque quelqu'un a perdu un être cher, on se précipite peut-être pour lui parler, pour le réconforter. Mais La Fontaine nous dit, c'est surcroît d'affliction, c'est augmenter la peine. Peut-être que la meilleure attitude, si l'on est avec son ami, frappé par un deuil, c'est de se tenir auprès de lui, silencieux, vous voyez, silencieux. Donc de rester là, des heures, pourquoi pas quelques journées, vous voyez, sans rien dire, parce que les paroles peuvent augmenter le chagrin. Jeter de l'huile sur le feu, non? Qu'est-ce que vous en pensez, Redouane? C'est difficile, hein, mais il n'y a pas de règle générale.
Tout à fait, il n'y a pas de règle générale. Il y a des personnes qui restent en retrait. Et récemment, justement, une collègue pasteur en Suisse alémanique me disait la difficulté qu'elle avait, puisqu'elle est plutôt, elle, suisse romande, chez les alémaniques, quand ils sont souffrants ou dans le deuil, ils n'aiment pas être visités. Alors qu'elle, elle ne comprenait pas. Normalement, mon rôle de pasteur, c'est de les accompagner. Et du coup, elle a pris conscience qu'il fallait garder ce temps de distance.
Ah oui, mais écoutez, j'aime beaucoup votre exemple. Je pense à ce que dit René Char, le poète, grand poète René Char. Les larmes méprisent leurs confidents. Ça veut dire que quand on pleure, on ne veut pas que l'on nous voit en train de pleurer, vous voyez, hein. On préfère pleurer seul dans son coin, et si quelqu'un assiste à notre chagrin, c'est une intrusion inadmissible dans notre intimité, en quelque sorte, vous voyez. Les larmes méprisent leurs confidents. Et il y a des cas, je pense, où devant quelqu'un qui souffre, il est plus charitable de détourner le regard pour ne pas lui infliger l'humiliation de voir son intimité violée. Mais cela, la société actuelle, et là vous en conviendrez, Redouane, cette société qui théâtralise et qui extériorise de façon mécanique et injonctive les rites et les comportements, cette société ne nous l'apprend pas. Nous devons découvrir cela tout seul, c'est-à-dire le retrait, c'est-à-dire le respect de l'autre, y compris dans son chagrin. Vous voyez, les émissions de télévision du genre télé-réalité, par exemple, me semblent obscènes. Pourquoi? Parce que les gens se déboutonnent, comme on dit trivialement, ils se répandent. Hein, et bon, c'est un déballage de souffrance, et ensuite... bon, les gens s'imaginent qu'avec, comment dire, une ambition euphorisante, une atmosphère euphorisante, une injonction au bonheur à tout prix, ces gens-là peuvent recevoir consolation. Hein. Moi, je trouve que là, ça met très mal à l'aise. C'est pas votre avis, Redouane, ces émissions-là?
Ah oui.
Ah oui, parce que... Vous voyez, donc...
Oui, tout à fait, ces émissions sont, comme vous le dites, assez obscènes.
Assez obscènes, voilà. Alors, nous croyons toujours qu'il faut tendre la main à quelqu'un qui souffre. Alors, cela est vrai, souvent, bien sûr, hein. Donc, rien de plus beau que des mains qui se frôlent ou se joignent dans la compassion. Malheureusement, cela n'est pas toujours pertinent, vous voyez. Et il peut y avoir un refus de la main tendue et secourable que nous oppose certaines détresses. Je vais prendre un exemple. L'exemple de Nastassia dans le roman de Dostoïevski, L'Idiot. Eh bien, elle refuse l'amour compassionnel que lui voue Mishkin, le prince Mishkin, précisément parce qu'elle a trop souffert auparavant. Cette affaire pour elle, je dirais volontiers, de dignité personnelle, car sa souffrance au moins lui appartient. Et en regard, elle ressentirait comme une atteinte à ce qu'elle est, une consolation qui l'humilierait. Il y a donc, je dirais, un refus postulatoire de l'aide chez certains grands malheureux. Le souvenir de leur propre malheur leur interdit le bonheur. Et aussi, parfois, la pensée à un malheur universel. Voyez ce que dit La Sauvage dans la pièce de d'Anouilh. Thérèse, héroïne de La Sauvage, elle dit, je cite, « Il y aura toujours un petit chien crevé quelque part qui m'empêchera d'être heureuse. » Vous voyez ? Donc, ce qui est important, c'est de savoir que parfois, il est obscène de vouloir manifester une exigence au bonheur à quelqu'un qui est trop malheureux, soit parce qu'il a souffert lui-même dans son passé, hein, et la souffrance fait son tisse les fibres même de son être, soit même que, au regard du bonheur universel, hein, eh bien, vouloir être heureux nous semble absolument inadmissible. Alors, vous voyez, se rattacher à son passé même de souffrance est nécessaire. La mémoire fait la personne. Et vous savez, Redouane, et tous les jardiniers nous le diront, qu'on ne transplante pas une plante sans mettre en danger sa vie elle-même, hein. Et on n'arrache pas non plus quelqu'un à la souffrance qui fait sa vie sans aucun péril. Hein. Il faut savoir respecter cela. Et donc, comme nous parlons d'amour et connaissance, nous avons affaire ici à une connaissance beaucoup plus subtile, beaucoup plus fine des choses qui va contre le réflexe immédiat. Alors, il y a une injonction générale au bonheur qui me semble aujourd'hui non pertinente eu égard à la souffrance que nous pouvons voir autour de nous et que nous pouvons éprouver nous-mêmes, et pour ce bonheur sur commande me semble inadmissible. Alors j'ai choisi comme première virgule musicale une belle chanson de Pierre Perret, Fillette, le bonheur c'est toujours pour demain.
Le bonheur, c'est toujours pour demain. Et fillette, ne prends pas ma main. Mes doigts ont effeuillé tant de roses que de parler d'amour encore je n'ose. Où sont mes amis qui seront fidèles et ces pays pleins d'odeur de cannelle, et toi, mon bel amour, ma tristesse nouvelle, as-tu un cœur de fer sous ton corsage de velours? Y a-t-il quelque part un ruisseau d'eau pure? N'existe-t-il pas cet amour qui dure? Le bonheur est-il bref comme un orage en ciel d'été? Celui qui sait tout ça est homme plus heureux que moi. Le bonheur, c'est toujours pour demain. Et fillette, ne prends pas ma main. Mes doigts ont effeuillé tant de roses que de parler d'amour encore je n'ose. Brûlant sont les mots sortis de tes lèvres, l'eau de tes baisers m'a donné la fièvre. Si un autre que moi dort dans ta chevelure, mes doigts seront serpents, couteaux seront mes dents. Et quand tu t'endors, ingénue divine, la bouche meurtrie contre ma poitrine, ne faut-il pas partir avant d'encore une fois mourir? Celui qui sait tout ça est homme plus heureux que moi. Le bonheur, c'est toujours pour demain. Et fillette, ne prends pas ma main. Mes doigts ont effeuillé tant de roses que de parler d'amour encore je n'ose. Le bonheur, c'est toujours pour demain. Et fillette, ne prends pas ma main. mes doigts ont effeuillé tant de roses que de parler d'amour encore je n'ose. Loulou, loulou, loulou.